OK, ça fait qu'on va continuer nos leçons qu'on avait commencées sur la confession de foi baptiste de 1689. Et ce que je voulais vous dire tantôt me revient. C'est que la confession de foi baptiste 1689, quand on l'étudie d'un couvert à l'autre, c'est 32 chapitres avec des paragraphes qui, des fois, sont assez longs. Moi, j'avais le choix. Ou on la passe rapidement, ou on y va en détail et on fait une belle job. Moi, j'ai décidé que j'y allais pour la belle job, comme on dit. Aller lentement, mais sûrement. Alors, le temps, l'expérience, la vie m'apprend que petit train va loin, comme on dit. Quand on fait les choses régulièrement, on finit toujours par atteindre notre but. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est que je vous avais dit qu'on avait j'ai trouvé un livre sur Internet parce qu'il était recommandé par quelqu'un que je respectais beaucoup. Ça s'appelle « The Doctrine of God ». C'est un pasteur réformé baptiste qui a été professeur dans un institut biblique toute sa vie. Et ça, c'est le fruit de son travail. Il est en train de faire une série de volumes. Et moi, j'ai le premier. Je sais que le deuxième est déjà sorti. Mais le premier, c'est « The Doctrine of God ». C'est un livre de 600 pages. J'ai commencé à le lire. J'ai 400 pages de lu. Et je suis littéralement charmé, renversé. J'ai jamais vu quelque chose de qualité comme ça depuis que j'existe. Je l'avais déjà vu, des bons livres. Mais celui-là, l'aspect que j'aime beaucoup, et que non seulement il explique les doctrines de Dieu en détail, mais il amène des applications pratiques. Autrement dit, il n'y a rien qui enseigne sans qu'il ne nous demande pas de changer quelque chose dans nos vies de tous les jours. Et il nous donne un paquet de détails, et ça, j'aime ça beaucoup. Parce que c'est pas juste de savoir avec la tête, c'est que ton savoir de la tête, il faut qu'il s'en aille dans tes membres, il faut qu'il s'en aille dans ton comportement. Alors ça, je vous dis que c'est un livre d'or. Pourquoi je le mentionne ce matin? Parce que on avait parlé que s'il y en avait qui avaient à cœur de... Moi, je voulais offrir un volume à tous les pasteurs qui enseignent de l'association. Ça devrait représenter à peu près, j'ai fait la liste chez nous, ça devrait représenter à peu près 10. J'ai trouvé un endroit sur Internet. Normalement, le livre en argent québécois, là, en argent canadien, coûte 38,95 chacun. J'ai trouvé un endroit sur Internet où je peux avoir à 22 piastres en argent américain. Donc, ça veut dire à peu près en bas de 30 piastres, ou aux alentours de 30 piastres. Alors, j'ai déjà reçu un don d'une centaine de dollars. Moi, je vais investir ma propre contribution. Alors, s'il y en a qui l'ont à cœur, dites-vous une chose, c'est pas... c'est que ça va contribuer. Les gens qui vont lire ça, là, je suis sûr que ça va faire le même effet sur eux que ça a fait sur moi. Alors, si...
C'est pour donner à chaque pasteur.
Ou à chaque pasteur qui enseigne. Parce qu'il y a des pasteurs, puis il y a des pasteurs... ceux qui enseignent, je voudrais leur donner chacun une copie. Parce que je suis sûr, je vais leur dire, lisez-le, là, puis après ça, je vais commencer à avoir que vous me donniez du feedback, comme on dit, mais je suis sûr que ça va être extrêmement positif parce que j'ai rarement vu quelque chose de qualité comme ça. Alors, on va continuer notre affaire sur la confession de foi. On était rendu à la leçon 3, mais on est au chapitre 2. Ça ne va pas vite, hein, 32 chapitres, puisque surtout quand on prend un paragraphe à la fois. Donc, on est dans le paragraphe 1 de la leçon du mois passé, parce qu'on fait une leçon par mois, on avait vu le seul Dieu vrai et vivant. Et aujourd'hui, on était rendu au paragraphe 2, c'est, on pourrait l'intituler, la souveraineté toute suffisante de Dieu. Et la troisième paragraphe va être sur le Dieu trinitaire, donc sur la Trinité, la doctrine de la Trinité, ça va être à la fin du mois. On va avoir deux chapitres de fait sur 32, ça va pas vite, mais ça avance. Alors, le paragraphe 2 du chapitre 2 pourrait avoir le plan suivant. Il y aurait 5 divisions à l'intérieur de la... La première, c'est... Dans le fond, ça parle des relations de Dieu envers ses créatures. Autrement dit, Dieu est dans son ciel, mais il y a des relations avec les personnes qu'il a créées sur la terre, et plus particulièrement avec les saints. Alors, c'est les relations de Dieu avec ses créatures. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est son indépendance toute suffisante d'eux. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin des hommes pour quoi que ce soit. Il aurait pu laisser dans sa Trinité, dans sa, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'aura pas créé rien du tout, il manquait rien du tout. Donc, on parle d'indépendance toute suffisante. Il n'y avait pas besoin des hommes, puis encore aujourd'hui, il n'y a pas besoin des hommes. S'il nous utilise, c'est par grâce, c'est par bonté, par amour, par miséricorde et plein d'autres choses. La deuxième chose qu'on va regarder, sa domination souveraine sur eux, sur nous. Il domine sur toute la création. Mais quand on parlait tout à l'heure de souveraineté, il est vrai que Dieu contrôle tout ce qui se passe sur la terre d'une façon absolue. On oublie ça parfois. On est porté à regarder la situation, les guerres entre les nations et toutes sortes de choses semblables. Mais souvent, on a peur. On oublie que Dieu est au contrôle de toutes ces choses-là de façon absolue. Alors ça, on a vraiment besoin de se remémorer ça. La troisième chose que le texte nous parle dans ce paragraphe-là, c'est sa connaissance absolue de chacun des créatures qu'il a mis sur la terre. Ça, c'est quasiment incroyable. Il faut vraiment s'arrêter. Et sa connaissance absolue, ça veut dire, moi, si je vous pose la question, le 22 novembre 1961, vous étiez où, puis vous faisiez quoi? Non, mais on va dire 80. Parce qu'il y a des jeunes, ici. Mais on va dire 1980, ou même 90, pour être certain, pas se tromper. Le 22 novembre 1990, vous étiez où, puis vous faisiez quoi? On ne sait même pas, on ne se connaît même pas nous-mêmes. On a une mémoire extrêmement courte. Quand on dit que Dieu a une connaissance absolue de chacun d'entre nous, c'est que lui, si tu posais à Dieu où est-ce que tu étais, même on pourrait même ajouter de l'heure, où est-ce que j'étais tel à 8h15, il me dirait que tu étais là, tu faisais ci, tu faisais ça. Dans ta tête, il se passait ça, tu as dit tel mot. Sa connaissance absolue, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'il ne connaît pas de nous. Ça, c'est intéressant, là, de se souvenir que Dieu, pour lui, nous, là, on pense qu'on se connaît. Des fois, tu sais, quand on vit avec quelqu'un, on est marié, ça fait des années, la femme a dit, « Oh, je le connais-tu? Oh, que je le connais! » Mais tu ne le connais pas tant que ça. Parce qu'il y a rien que Dieu qui connaît les personnes de façon absolue. Souvenir de tout ça. La quatrième chose, c'est que Dieu est absolument saint devant chacun de ses créatures, devant chacun d'entre nous. Et la cinquième, ce serait les droits et les revendications que le Seigneur a sur nous. Et quand on est chrétien, on n'a pas de misère à dire « Dieu a tous les droits sur moi. » Vie, mort, envoyer des maladies, pas de l'envoyer, tout. Il y a tous les droits sur nous. Les revendications, il y a des droits, il peut nous imposer des choses. Par exemple, les 10 commandements de Dieu, il s'adresse encore au peuple de Dieu. Dieu a tous les droits sur nous. S'il nous dit, par exemple, que le dimanche, c'est le jour du sabbat, selon les... On se devrait d'être à nos cultes pour adorer Dieu. C'est un commandement de Dieu, pas un commandement des hommes. Alors, des fois, on oublie ça, et on vit dans une société où que la tolérance est tellement grande qu'on fait n'importe quoi, pas sûr que le Seigneur approuve. Si on n'a pas de raison, si on n'est pas malade, notre place, le dimanche, c'est d'être ici. Bon, les droits et les revendications. Alors, ce qu'on va faire, on va reprendre le chapitre 2 du paragraphe 2, on va juste le relire et après, on va aller un petit peu dans l'approfondissement de la signification de tout ça. Ça dit, possédant toute vie, quand vous avez votre confession de foi devant vous, vous regarderez à côté de vie, il y a un petit numéro, c'est marqué 17. Souvent, quand on lit une confession de foi comme ça, quand je disais ce matin qu'on est un petit peu paresseux, mais des fois, j'irais peut-être un petit peu plus loin, je dirais qu'on est peut-être beaucoup paresseux. Il faut aller voir le verset. Puis là, il en donne un, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un. Il peut y en avoir plusieurs qui parlent du même sujet. C'est toujours enrichissant quand tu prends le temps de prendre le verset, regarder de quoi qu'il dit, puis d'aller voir. Parce que quand on le fait, on est enrichi, on comprend mieux la doctrine. Alors, possédant toute vie, gloire, donc toute vie, toute gloire, bonté, toute vie, toute gloire, toute bonté, et bonheur en lui-même et de lui-même. Seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature qui l'a fait. Il n'a pas besoin de nous autres. Quand il nous utilise, c'est parce qu'il le veut bien dans sa souveraineté. Après ça, ça dit, il ne dérive aucune gloire d'elle, en voulant dire des créatures, mais seulement manifeste sa gloire en, par, à et sur elle. Des fois, quand on lit un texte comme ça, on lit d'une shot, bien, ça va bien, ça glisse. Mais arrête-toi, médite un peu, des fois, qu'est-ce qui est dit, réfléchis, parce que là, il y a quatre mots qui sont utilisés. Il manifeste sa gloire en. En quoi? En nous. Par. Il manifeste sa gloire par. À. Il manifeste sa gloire à ces gens-là. On voit sa gloire. Et sur. Voyez-vous, il y a quatre mots. On les lit, puis ça nous passe comme six pieds pendant sa tête. Il faut réfléchir, des fois, il faut dire, qu'est-ce qu'il veut dire, là? Pourquoi il utilise « en »,« par »,« à » et « sur » Parce que ça veut tout dire des choses différentes. Après ça, il est la seule source de tout être, de qui, par qui et pour qui toute chose existe. Il possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures pour accomplir par elles, pour elles et sur elles tout ce qui lui plaît. Tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux. Sa connaissance est infinie, infaillible et indépendante de la créature, de sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. Voyez-vous, on lit le passage, puis si je vous posais à chacun, ça veut dire quoi contingent? On lit le mot, puis on ne sait pas ce qu'il veut dire. Alors, on est appauvri dans notre compréhension, parce que des fois, il faut prendre un dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, contingent? Parce que ceux qui ont écrit ça, ils ont eu un vocabulaire riche et précis. Mais vu qu'on lit rapidement, parfois, on passe un petit peu à côté du bateau parce qu'on ne prend pas la peine d'aller voir les mots qu'on ne comprend pas. Contingent ou incertain. Dans tous ses desseins, dans toutes ses œuvres, dans tous ses commandements, il est très saint. Les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent comme créature à leur créateur, et tout ce qu'il lui plaît d'exiger d'eux en plus. Un petit paragraphe, hein? Il en dit long. C'est pour ça qu'une confession de foi, ça a été réfléchi par un très grand groupe de pasteurs. Et quand on regarde la connaissance que ces pasteurs-là avaient à cette époque-là, et qu'on compare ça avec la connaissance qu'on a avec les pasteurs modernes, on rentre dans un autre monde, je vous le dis. Les puritains, ça c'était à l'époque un petit peu des puritains, étaient dans leur connaissance des Écritures, ça se compare même pas avec le 20e et le 21e siècle. Ils avaient une connaissance extraordinaire. Tu prends un grand groupe d'hommes comme ça, tu les mets ensemble et tu leur dis « définissez ce qu'on croit ». Ça a pris du temps avant de pondre ça, là. Ça a été réfléchi, ça a été trouvé verset. On a une richesse dans les mains. Là. Les gens qui ne comprennent pas, c'est la richesse d'une confession de foi. Là. C'est que il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de bénédictions qui nous sont données là-dedans. On l'a souvent, je le sais, parce que les églises, toutes les églises ont des copies de la confession de foi, disent adhérer. Mais le problème, c'est que si on ferait venir les gens en avant, puis on lirait un paragraphe ou on lirait un chapitre, on dirait « explique-moi ce que ça veut dire ». C'est là qu'on voit qu'il y a un problème. On a une superbe de belle confession de foi, mais il faut s'arrêter à comprendre ce que ça dit. Si on ne comprend pas, quelque part, on manque le bateau, on dit. OK, on va commencer par le premier point. On a dit qu'il y en avait cinq. On va en faire au moins quelques-uns ce matin, au moins un ou deux. Le premier, c'est que son indépendance toute suffisante d'eux. Alors, on avait dit, possédant toute vie, toute gloire, toute bonté et bonheur en lui-même et de lui-même, seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature qui l'a fait. Il ne dérive aucune gloire d'elle, mais seulement manifeste sa gloire en, par, à et sur elle. Il est la seule source de tout être, de qui, par qui et pour qui toute chose existe. Ça, c'est juste la première idée qu'on dit. L'indépendance toute suffisante de Dieu. Et si on va voir les versets, par exemple, on a dans le petit numéro 17, ça fait référence à Jean 5, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus est capable de donner la vie physique, est capable de donner la vie spirituelle à une personne qui ne l'a pas parce qu'il l'a en lui-même. Dieu le Père l'a en lui-même, Dieu le Fils l'a en lui-même, Dieu le Saint-Esprit l'a en lui-même. Et quand ça dit la deuxième chose, donc, possédant toute vie, la vie dont on parle ici là, n'est pas celle qui est en relation avec la vie dans la création. Avant que la création existe, Dieu était toute vie. Dieu avait toute la vie en lui-même et de lui-même. Dieu l'a toujours eu en lui-même et n'a jamais eu besoin de la création ou de ses créatures. Ça nous humilie un petit peu. Hein? Dieu n'a pas besoin de nous. Puis il n'a pas besoin de créer. Il y en a qui pensent, je me souviens d'avoir déjà entendu un chant, je ne me souviens plus quel chanteur qui chantait ça. Dieu, dans son grand ciel tout vide, a décidé de créer. Je ne m'en souviens plus, mais c'était très connu comme chanson. Et des fois, les chanteurs, ils disent des choses intelligentes, mais des fois, ils disent des méchantes zonneries. Possédant toute gloire. Un autre mot qu'on utilise, le mot gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu, quand on dit la gloire de Dieu? Moi, j'ai une définition qui est assez simple. C'est la manifestation simultanée de chacun de ses attributs. Disons, on va prendre pour un chiffre, on va dire 25 attributs. Bonté, amour, miséricorde, patience, etc., etc., là. La manifestation simultanée, ça veut dire qu'il nous les ferait voir toutes les 25 en même temps. Bien, si quelqu'un voit la gloire de Dieu comme ça, là, dans notre état, même régénéré, il meurt. Gloire de Dieu, c'est quelque chose de tellement éclatant, tellement puissant, tellement fort, que l'être humain, même régénéré, n'est pas capable de stander la lumière de Dieu quand ça se manifeste pleinement. Souvenez-vous du passage où Moïse demande « Fais-moi voir ta gloire. » Qu'est-ce que Dieu dit? Il lui a montré ça de dos, parce que s'il aurait montré de face, il serait mort. Dieu est tellement... Quand on parle de toute gloire, là, on n'a pas idée jusqu'à quel point c'est grand. Psaume 148, verset 13. « Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. » Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. La création, bien sûr, apporte de la gloire à Dieu, mais en la faisant, aucune gloire ne fut enlevée à Dieu. Quand on regarde la nature, n'est-ce pas que des fois, ah, les montagnes, c'est beau, ah, les fleurs, c'est beau, les nuages, c'est beau, les arbres, c'est beau. La gloire de Dieu se manifeste dans sa création, mais quand elle se manifeste dans sa création, ça n'enlève rien à la gloire de Dieu. Comprenez-vous? Alors, la création, par son existence, n'ajoute pas de la gloire à l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà toute la gloire en lui-même. Il n'y avait aucune gloire à ajouter. Dieu était pleinement glorieux. Souvent, vous avez sûrement déjà entendu l'expression, on fait des choses pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Ça veut-tu dire que parce qu'on fait, ou par l'obéissance qu'on a, on peut apporter davantage de gloire à Dieu? Non! Dieu a toute la gloire. La seule chose que ça va amener une manifestation perceptible par les yeux des autres. Si vous agissez toujours saintement, ça va faire en sorte que des personnes autour de vous qui vont percevoir un peu plus la gloire de Dieu, une parcelle, un rayon de la gloire de Dieu. Donc, notre obéissance n'ajoute aucune gloire à Dieu. Parce qu'il a la gloire de façon infinie et parfaite. Mais si on obéit à Dieu et qu'on mène une vie sainte, qu'est-ce que ça l'amène? C'est que les gens autour de nous voient un aspect ou un rayon de la gloire de Dieu et ça les fait se rapprocher de Dieu. Alors quand on dit « je fais tout », on fait les choses pour la gloire de Dieu, c'est que ça ne lui amènera rien de supplémentaire. Il y a déjà tout. Tu ne peux pas rien ajouter à la gloire de Dieu. La seule chose que tu peux permettre, c'est que ton comportement peut faire en sorte que les autres autour de toi vont commencer à la percevoir un peu. Disons que vous êtes très bon de nature, vous faites ce que les Écritures vous disent, soyez bon, et que vous le faites, puis que vous êtes bon. Mais les gens vont voir en vous un petit rayon, un petit reflet de la gloire de Dieu. Il va juste l'apercevoir, mais elle était déjà là. Puis tu ne l'aperçois jamais pleinement, ça fait qu'à quelque part... Et là, ça se dit aussi, possédant toute bonté. Avez-vous déjà connu du monde qui sont bons? Il y en a qui sont bons, quasiment bonasses, comme on dit des fois. Là. Ils sont tellement bons. Là. Puis ça, c'est, on parle de bonté humaine. Quand on parle de bonté de Dieu, possédant toute bonté. Ça veut dire que Dieu est bon d'une façon infinie. On n'a aucune idée jusqu'où ça peut aller. Voyez-vous, le psaume 119, verset 68, ça dit « Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. » De la même manière que Dieu possède toute vie et toute gloire, Dieu est déjà toute bonté et rien ne peut ajouter ou enlever à sa bonté. La bonté du Seigneur a été révélée par sa création. Quand on regarde autour de nous, même dans la création qui a été souillée par l'homme, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est souillé par l'homme, on trouve ça encore, ça nous émeut aux larmes des fois. On voit des couchers de soleil des fois. Waouh! On trouve ça encore super beau. Alors, Dieu se manifeste par sa création. Mais cette bonté-là existait même avant qu'il crée le monde. Tous les attributs de Dieu, ça existait pleinement avant même qu'il crée le monde. Ce n'est pas en créant le monde qui a fait que sa gloire a augmenté. Et ça dit aussi « possédant tout bonheur en lui-même et de lui-même ». Alors quand la chanson dit « le Dieu dans son grand ciel tout vide a décidé de créer », c'est comme en voulant dire « Dieu était au ciel puis s'ennuyait, puis il a décidé de faire quelque chose pour se désennuyer ». Quelle ânerie! Les Écritures nous disent que entre les trois personnes de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'était la parfaite harmonie, l'amour. S'il avait voulu, il n'aurait rien créé du tout. Alors on peut se poser la question, pourquoi il a créé? Là, on rentre dans les grandes questions de théologie. Pourquoi il a créé s'il n'y a pas besoin? Pourquoi il a créé l'enfer? Pourquoi il a créé le ciel? Pourquoi il a créé l'homme en sachant d'avance qu'il était pour pécher, etc.? Là, on commence à rentrer dans le steak de la théologie. Parce que des fois, on est outillé. Mais quand on rentre dans le steak, là, des fois, ça nous amène à des réflexions qui sont un petit peu plus difficiles. Possédant tout bonheur en lui-même et de lui-même, moi, c'est le verset que j'utilise pour parler de ça, c'est Romains 11. Moi, ça, c'est mon passage préféré. Romains 11, verset 33 à 36, c'est un verset qui parle de tout de Dieu d'une telle manière qu'on a de la misère à saisir ce qu'il est en train de dire. Mais on va reprendre juste le verset 36 aujourd'hui. Romains 11, verset 36. Lisez-le lentement en réfléchissant à ce qu'il est en train de dire. Pourquoi il fait ça en Romains 11, 36, 33, 36? Parce que Paul est en train de parler du salut dans toute l'Épître aux Romains. Et là, il a terminé son exposition de l'Épître aux Romains. Et là, il est en extase devant l'œuvre de Dieu. C'est comme sa conclusion. Il a présenté l'œuvre du salut et là, il est en train de faire la conclusion. Il dit, car toutes choses sont de lui et par lui et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Regardez bien, quand on se donne la peine un petit peu de réfléchir au sens du verset. Ce verset nous apprend que Dieu est la source. Toutes choses sont de lui. Le canal, Dieu, toutes choses sont par lui. Et la fin de toutes choses sont pour lui. De lui, par lui, pour lui. Quand il dit toutes choses, là, il n'y a rien qu'on ne peut pas mettre dans ce verset-là. Toutes choses viennent de lui. Toute chose passe par grâce, par lui, et toute chose retourne pour lui, pour sa gloire. C'est un verset d'une profondeur qu'on pourrait réfléchir toute notre vie sur ce verset-là. On n'aura pas fini de le comprendre, j'en suis convaincu. Quand ça dit « se suffisant à lui-même », il y a juste Dieu qui suffit à lui-même. Parce que les trois personnes, c'est le parfait bonheur, l'amour constant, aucun problème entre les trois personnes. Alors, quand on lit, par exemple, Job, chapitre 22, versets 2 et 3, ça dit, « L'homme est-il utile à Dieu? C'est à lui-même que le sage est utile. Le Tout-Puissant a-t-il de l'intérêt à ce que tu sois juste? Gagne-t-il quelque chose à ce que tu marches dans l'intégrité? Si. Romains 11, versets 34 à 36. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier et en sera payé de retour? Car toutes choses sont de lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire dans les siècles. Amen. Alors, on a juste vu une partie du paragraphe 2, puis on a déjà des grandes choses qu'on pourrait prendre pour passer des semaines, même des mois, même des années à méditer, tellement il y a de la profondeur là-dessus. La deuxième idée qu'on a vue, qui était dans le passage, c'est que sa domination souveraine sur eux. Sur eux, c'est sur les créatures. Donc, il domine de façon souveraine sur ses créatures. Et c'est exprimé avec les mots suivants. Il possède une souveraineté absolue. Les mots, des fois, alors, ils veulent dire quelque chose d'absolu. Ça veut dire que c'est lui qui est le patron, le grand patron, de façon absolue. Il n'y a rien qui se passe sans que lui ne l'ait décrété. Sur toutes les créatures, là, c'est pas juste les singes. Imaginez-vous connaître parfaitement 8 milliards de personnes. Vous assurez ça. Moi, je n'en connais même pas une. Ça fait des années que je vais avec, je la connais pas tant que ça. Imaginez-vous 8 milliards de personnes dont vous connaissez la moindre chose à la perfection. Quelle sorte d'esprit ça prend? Oh, ça prend quelque chose de... Puis, non seulement il sait qui on est, mais il nous contrôle. Il contrôle tout ce monde-là de façon parfaite. Alors, j'ai le passage Daniel 4, versets 20 à 25 et versets 33 à 36. Pourquoi je prends ce passage-là? Parce que c'est tellement un beau passage qui parle que Dieu est souverain et qu'il contrôle les choses qui se passent. Daniel 4, c'est un passage où Dieu vient montrer au roi, le plus puissant de l'époque, Nébuchadnezzar, il dominait presque toute la terre à son époque. Il était vraiment puissant. Là. On n'a pas d'idée jusqu'à quel point il était puissant. Il était bien plus puissant que le président des États-Unis aujourd'hui. C'était gros, là. Alors, on va lire un petit peu comment Dieu lui a montré que c'est lui le boss. Alors, Daniel est en train d'expliquer au roi son rêve qu'il avait vu l'arbre. Alors, il dit, « L'arbre que tu voyais, qui crut et prit force, et dont la hauteur atteignit aux cieux, et qui se voyait de toute la terre, l'arbre au feuillage magnifique et aux fruits abondants, et dans lequel se trouvait nourriture pour tous, sous lequel habitaient les animaux des champs, et dans les branches duquel demeuraient les oiseaux du ciel. C'est toi. » Tu es en train de dire, l'arbre, c'est toi. Alors, il dit, « C'est toi, ô roi, toi qui as cru et pris force, et dont la grandeur s'est accrue et a atteint aux cieux, et la domination au bout de la terre. » Le Seigneur lui avait donné qu'il dominait toute la terre comme roi. Mais le Seigneur a eu besoin d'y montrer qu'au-dessus de lui, il y avait quelqu'un encore qui était bien plus grand que lui. « Et quand ce que le roi a vu un veillant et saint qui descendait des cieux et qui disait, « Coupez l'arbre et détruisez-le, toutefois laissez le tronçon de ses racines dans la terre, mais dans une chaîne de fer et d'airain parmi la verdure des champs, et qu'il soit baigné de la rosée du champ, et qu'il ait sa portion avec les animaux des champs, jusqu'à 7 ans soient passés sur lui. » Telle est l'explication au roi, et c'est la décision du Très-Haut qui va atteindre le roi, mon Seigneur. Tu seras chassé d'entre les hommes, et ton habitation sera avec les animaux des champs. Tu seras nourri d'herbe, comme les bœufs. Tu seras baigné de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur l'empire des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Il ne donnait pas une leçon à deux pics. Il donnait une leçon à l'homme le plus puissant de l'époque. Et dans le verset 33, « Dans ce même instant, la parole s'accomplit sur Nébuchadnezzar et il fut chassé. » Dans ce moment même, dans ce même instant, la parole s'accomplit sur Nébuchadnezzar, et il fut chassé d'entre les hommes, et il mangea de l'herbe, comme les bœufs, et son corps fut baigné de la rosée du ciel, jusqu'à ce que sa chevelure lui crût, comme aux aigles, et des ongles, comme les oiseaux. J'ai déjà lu dans un commentaire que cette capacité, c'est arrivé à des vrais hommes, qui mangent de l'herbe, comme les animaux. Donc, Dieu l'a pris la plus haute puissance qu'un homme peut avoir sur la terre, puis l'envoyer dans le champ à manger de l'herbe comme un bœuf. Oh! Un petit peu humiliant, direz-vous. Et ses ongles sont devenus comme des aigles, ses ongles sont devenus comme ceux des oiseaux. Alors, il ne devait pas être beau à voir quand il était rendu dans le champ, depuis que tout a poussé, comme on dit. Et au bout de, verset 34, au bout de ses jours, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et ma connaissance me revint. Il avait dit 7 ans. Et je bénis le Très-Haut. Voyez-vous? Un païen de la pire espèce qui se pensait le boss du monde, le Seigneur, il lui dit, ma connaissance me revint, je bénis le Très-Haut, et je glorifiai et j'honorai le vivant d'éternité, duquel la domination est une domination éternelle et dont le règne dure d'âge en âge. Verset 35, et pour qui tous les habitants de la terre sont comptés comme néant, et qui agit selon sa volonté avec l'armée des cieux et les habitants de la terre. Il n'existe personne qui puisse combattre sa main ou lui dire « Que fais-tu? » Dans ce temps-là, ma connaissance me revint, et pour la gloire de ma royauté, mon honneur et mon éclat me revinrent, et mes conseillers et mes grands seigneurs s'enquirent de moi, et je fus rétabli dans ma royauté, et ma grandeur fut extraordinairement augmentée entre les hommes. Et il mangea de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut baigné de la rosée du ciel jusqu'à ce que sa chevelure lui crût comme aux aigles et ses ongles comme aux oiseaux. Alors, verset 34 à 36, on l'avait déjà, je pense que je l'ai mis en double un petit peu. La question, c'est qu'il était un homme extrêmement puissant. Il pensait que c'était lui qui avait tout. Il se pétait les bretelles. Voyez-vous la Babylone que j'ai faite? Il pensait que c'était « me, myself and I ». Le Seigneur lui a montré qu'il n'est rien du tout. Il l'a envoyé réfléchir pendant quelques années à manger de l'herbe et à ressembler à une bête. Et après, il lui a redonné la compréhension que c'était Dieu qui venait. Et même ce souverain-là c'est soumis à Dieu, reconnaissant que c'est lui qui mène et non lui le roi. Voyez-vous, dans le psaume 115, au verset 3, ça dit « Notre Dieu, il est dans les cieux, il fait tout ce qu'il lui plaît. » C'est lui le grand boss, comme on dit. Et le verset 135, verset 6, « L'Éternel fait tout ce qui lui plaît, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Autrement dit, il a le contrôle absolu sur toute sa création, peu importe où elle se trouve. Ciel, terre, mer, il n'y a rien qui n'est pas le patron. Proverbe 21, verset 1, qui nous parle de la puissance de Dieu pour travailler sur nos esprits. Et ici, il prend l'exemple d'un roi. Il essaierait de faire changer l'idée d'un roi ou d'un président d'une grosse affaire. Là. Un roi que des fois... ça peut être extrêmement difficile. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme une eau courante. Il l'incline à tout ce qu'il veut. Il y a des exemples des Écritures. Le Seigneur a choisi un roi païen pour permettre aux Juifs de retourner dans leur pays. Et d'où ça venait, ça? Le Seigneur travaille dans l'esprit des grands de ce monde comme des petits. Tout le monde. S'il est capable de le faire avec un roi, il est très capable de le faire avec nous. Donc, le Seigneur incline, il peut incliner nos esprits à toutes sortes de choses. Alors, qu'aucune créature ne soit audacieuse au point de penser que Dieu n'est pas souverain et qu'il règne absolument sur nous. Advenant le cas qu'on pense que c'est nous qui a tout bâti, qui a tout réussi dans notre vie, Dieu peut permettre une expérience qui est semblable à celle de Nebuchadnezzar, nous humilier, nous amener à reconnaître que c'est lui qui mène. Alors, Dieu, si on a une attitude qui ressemble à celle de Nebuchadnezzar, Dieu va nous faire connaître des expériences qui vont ressembler aussi à Nebuchadnezzar pour nous montrer que c'est lui qui est le patron. Donc, il nous resterait... on va faire encore un autre point. On va faire le troisième. Sa connaissance absolue d'eux. Autrement dit, le Seigneur nous connaît d'une manière absolue, et non seulement ses créatures, mais toutes, qu'ils soient saints ou qu'ils soient non saints. Alors, ça dit dans la confession de foi, sa connaissance est infinie, infaillible et indépendante de la créature, de sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. Alors, la connaissance qu'a le Seigneur de toute sa création et de toutes ses créatures est infinie. Rien n'est caché devant lui et tout est manifeste. Moi, si je lui demande où si j'étais le 21 septembre 1962, moi, je m'en souviens pas. J'ai aucune idée de ce que j'étais à cette date-là. Mais le Seigneur, lui, pour lui, tout est présent, que ce soit notre passé, que ce soit notre présent ou que ce soit notre avenir. Ça, c'est une affaire qui était... Des fois, c'est assez trippant de penser à ça quand on arrête. Là. De penser que pour Dieu, tout mon passé, il le connaît à la perfection. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, penser, dire, il sait parfaitement. Et non seulement ça, mais l'avenir, ce que je vais, la date que je vais mourir, la manière, dont les circonstances, tout Dieu connaît tout. Pour lui, notre vie est déroulée et il la connaît à la perfection d'un bout à l'autre. Alors on dit une connaissance parfaite, passé, présent, avenir. Ça fait drôle de penser à ça. Hein? Moi, ça me fait drôle, en tout cas. Je me dis, j'ai 111 ans, je suis là, je suis à tel endroit, je vais mourir comment, de quelle maladie, le Seigneur va me m'accorder combien d'années encore, combien de jours, je n'ai aucune idée. Mais pour lui, tout est déroulé. De penser à ça, là, c'est spécial. Alors, ça dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 13, si c'est vrai qu'il y a une parfaite connaissance de nous, est-ce qu'on peut se cacher de lui? Mais non, bien entendu. Hébreux, chapitre 4, verset 13, « Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. » Après ça, Ézéchiel 11, verset 5, « Et l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et me dit, « Parle, ainsi a dit l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à l'esprit, je le sais. » Avant même que tu le dises dans le psaume 139, le Seigneur, il sait quel mot on va dire. Comme là, dans deux minutes, je vais dire certains mots. Là. Moi, que je ne sais pas encore quel mot je vais utiliser, mais lui, il pourrait me dire d'avance. Spécial, hein? Moi, ça m'impressionne en tout cas. Acte 15, verset 18. Toutes les œuvres de Dieu lui sont connues de toute éternité. On n'existait pas encore. Il savait la destinée de toutes les créatures qui étaient passées sur Terre jusqu'à ce que ça soit terminé complètement. Il savait ce qui se passerait dans les années 100, dans les 200, 400, 500, 1900, 2000, et jusqu'où on va aller. Il y a plusieurs qui pensent que ça approche, le retour du Seigneur, beaucoup, beaucoup. Moi, personnellement, je pense que c'est proche, 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 pour plusieurs raisons. Mais c'est pas le but de la réunion ce matin. Alors, cette connaissance-là, selon la manière c'est exprimé dans la confession de foi, ça a plusieurs caractéristiques. Ça dit qu'elle est infinie. Quand on parle d'une connaissance infinie de quelqu'un, il nous connaît jusqu'au plus profond de nous-mêmes, les dates, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos omissions. Il nous connaît à la perfection infinie. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne sait pas sur nous. Infaillible. Dieu comprend toujours parfaitement, il ne se trompe jamais. Elle est indépendante de la créature. Dieu n'est pas dépendant de ce que nous lui disons ou confions. Il n'est pas restreint par la connaissance imparfaite que nous avons de nous-mêmes. Ça, j'ai souvent entendu ça dans des soirées de prière. Des personnes qui prient, et dans leur manière de prier, c'est comme s'ils voulaient informer le Seigneur de quelque chose. C'est d'un ridicule. C'est d'une ignorance crasse, comme on dit. On ne peut pas informer le Seigneur de quoi que ce soit. Alors, il faut faire attention à la manière dont on prie, de ne pas vouloir montrer à Dieu. C'est comme si on lui disait, « Es-tu au courant de telle affaire? » C'est bizarre. C'est... Alors, pour rien, pour Dieu, rien n'est contingent ou incertain. Quelque chose qui est contingent, c'est quelque chose qui peut se produire ou non, soumis au hasard. Voyez-vous, le mot contingent, c'est ça que ça veut dire. Quelque chose qui est contingent, ça veut dire quelque chose qui peut se produire ou non, et c'est soumis au hasard. Pour lui, il n'a pas de ça. Là, si elle va là, elle va faire quoi après, là? C'est jamais le cas pour Dieu. Il ne se pose jamais de questions. Il sait que, pour lui, le hasard n'existe pas. Alors, on va développer vraiment le point de tout cela dans le décret de Dieu, dans le chapitre 5. Dans le chapitre 3, c'est-à-dire le décret de Dieu, et dans le chapitre 5, la providence de Dieu. On vient de faire des leçons sur la providence de Dieu. On va voir comment Dieu a une connaissance absolue de tout ce qui se passe. Alors, quand il nous arrive quelque chose dans nos vies, je tombe malade, je m'en vais à l'hôpital, je perds ma job, ou n'importe quoi, là, on s'en va pas devant Dieu et dire « Ah, ben, tu savais-tu que j'avais perdu ma job? Tu savais-tu que je suis malade? Tu savais-tu que je suis à l'hôpital? » Non seulement il savait, mais c'est lui qui l'a décrété. À quelque part, on ne réfléchit pas de la même manière. Plus notre connaissance de la théologie va être grande, notre connaissance des Écritures va être grande, plus notre capacité de comprendre nos circonstances ou nos vies va être facile. Et moins on va ruer des brancards. C'est parce qu'on rue souvent des brancards. On rue des brancards. « Mais voyons, pourquoi tu m'envoies ça? Mais voyons, avais-tu besoin de ça? » Oui. Si tu l'envoies, c'est parce que c'est ça qu'il veut. Puis il y a quelque chose à te montrer à travers de ça. Alors, on devrait toujours accepter nos circonstances comme sachant qu'elles viennent de la main de Dieu. On a de la misère avec ça, hein? C'est l'apprentissage de toute une vie. Mais on peut progresser. C'est ça qui était un petit peu encourageant. Alors, pour aujourd'hui, on va arrêter au point 3 et on terminera les points 4 et 5 et les applications dans notre leçon de la fin du mois prochain.